franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, l'astrophysicien André Braïc nous racontait les missions d'exploration spatiale de Voyager et Cassini.
J'ai eu la chance d'être associé à deux de ces missions, Voyager et Cassini. Oui. Pour la mission Voyager, dites-vous qu'en 1970, ces planètes n'étaient que des points de lumière dans le ciel. On envoie cette sonde Voyager qui survole succession en 1979 Jupiter, en 1980 Saturne, en 1986 Uranus, en 1989 Neptune. Et ces objets qui étaient des points dans le ciel sont devenus des objets qui ont une résolution meilleure que la carte Michelin, avec mieux qu'un kilomètre. Eh bien, tout ce qu'on a trouvé était totalement inattendu. Tout ce qu'on avait prévu avant, c'était pas la bonne solution. Donc, c'est une aventure extraordinaire, comme si Christophe Colomb avait tout résumé en quelques années, avait filmé son voyage en disant, il y a un autre continent plus loin, il y a des habitants différents de nous, ils ont des plumes sur la tête, c'est très étonnant. Et alors, après ça, on y retournait. Alors, il y a une mission qui s'appelait Galileo autour de Jupiter. Manque de chance, l'antenne de communication s'est mal dépliée, donc on n'a pas fait tout à fait ce qu'on aurait voulu faire. On a fait des choses intéressantes, mais pas autant qu'on l'aurait souhaité. Et il y a eu la mission Cassini, qui a été effectivement la mission la plus ambitieuse qui ait jamais été lancée. Et dites-vous que la mission Cassini, je me souviens de la première réunion que nous avons eue dans un bureau à Pasadena, banlieue de Los Angeles, au mois de juin 1980. Vous n'étiez pas né, votre grand-mère était encore petite. Et là, on se réunit à 15 dans un bureau. Ouais. Et à 15 dans un bureau, on dit, ça serait bien si on retournait voir Saturne. Et je me souviens de la réaction des collègues. La plupart disaient, oh non, non, ça sera trop cher. Oh non, non, on n'y arrivera pas. Moi, j'aurais sorti un slogan de ma jeunesse en disant que dans la vie, il suffisait de dire qu'une chose était impossible pour qu'elle le devienne. Donc, on s'est battu. Coût de la mission, 4 milliards d'euros. 4 milliards, c'est pas grand chose quand vous pensez qu'il y a des banquiers qui, avec la même somme, font beaucoup moins bien que nous. Hein. Donc, moi, je prétends qu'on fait mieux qu'eux.
Mais surtout qu'on a encore eu des photos récemment. C'est-à-dire, Cassini bosse
ça
tout
continue.
Le temps.
Hein. Et alors, vous voyez l'aventure. 80, on essaie de ne pas faire passer la mission. On met 10 ans pour convaincre les chefs d'État et tout le monde. On met notre cravate, on va voir tout le monde avec notre attaché caisse. On gagne en 1990. On construit la sonde jusqu'en 1997. On lance en 97, on arrive à Saturne en 2004, on devait finir la mission en 2008, puis en 2008 on dit, dites donc ça marche bien, si on continuait. Alors les Européens, eux, vous savez, en Europe on est payé pas beaucoup, mais à vie. Aux États-Unis on est bien payé, mais pas longtemps. Et donc les Américains, ah oui mais si on paye plus longtemps, ça va nous coûter cher. On aimerait bien voir l'équinoxe, alors on a été prolongé jusqu'en 2010. Puis une fois qu'on a vu l'équinoxe, quand même ça serait bien si on voyait le solstice. Et on a été prolongé jusqu'en 2017. Et nous sommes financés cette mission jusqu'en 2019, c'est-à-dire 2 ans après la fin.
Mardi, comment les migrations ont transformé les villes, avec Gilles Antier et Michel Agier.
Une bonne partie de la croissance urbaine, c'est pas de la croissance naturelle, c'est de la croissance migratoire. C'est des gens qui viennent des campagnes aussi, qui vont s'installer. Et à l'intérieur de ça, quand on veut regarder qu'est-ce qu'elle devient, pourquoi elle vit, comment elle se débrouille, parce que la ville, surtout au sud, c'est l'empire de la débrouillardise. Un lieu privilégié d'analyse de ça, c'est le bidonville.
Oui.
Qu'est-ce qui joue comme rôle, comme amortisseur? Moi, je soutiens le fait qu'en particulier, il joue un rôle d'intégration et d'amortisseur entre le moment où on a quitté la campagne et où le moment où on va être un véritable producteur consommateur urbain.
Un mot justement sur les migrants, parce que phénomène aussi d'ampleur aujourd'hui et qui peut transformer aussi le visage des villes, Michel Agier.
On reconstitue les multiples origines de l'humanité, mais on a tout le temps, sans arrêt, des très grandes migrations, qu'on appellerait aujourd'hui des migrations internationales. Et aujourd'hui, elles sont bien plus rapides qu'elles ont pu être autrefois.
Ouais.
Mais l'humanité a composé ces espaces de société à partir de la migration, à partir de la mobilité. Personne n'est jamais sorti de la Terre, comme on dit.
Mais là, il y a un terrain d'étude extraordinaire pour vous, avec ce qui se passe, justement. On voit dans toutes les grandes villes européennes, en ce moment, l'arrivée massive de ces migrants. Donc c'est aussi le visage de la ville qui va bouger.
C'est pour ça que je l'aborde là, dans l'ouvrage, je disais, au-delà de l'actualité, au-delà des causalités très particulières ou de certaines pratiques minoritaires, il y a des phénomènes qui sont très significatifs, qui sont effectivement les phénomènes de bidonville, les phénomènes de campement, l'installation des migrants, où se mettent les migrants, les relations d'hospitalité, de solidarité ou non, de mise à l'écart, de création de lieux à l'écart, de ghetto. Et tout ça, c'est ce qui est dans la jeunesse des villes. Après, plus tard, on aura oublié cette origine. Et c'est ça qu'il faut reconstituer avec des choses qui nous sont contemporaines.
Mercredi, peut-on rester fidèle à soi-même tout en restant fidèle tout court? Les réponses de Sylvie Angèle, François de Singly et Stéphanie Thor.
Oui, c'est un des problèmes aujourd'hui qu'on rencontre beaucoup dans les couples, c'est-à-dire l'idée c'est mon développement personnel, moi et moi-même, et je dois tout vivre et je dois surtout avoir le maximum d'expérience et je dois me développer. Et donc c'est souvent...
Quitte à rompre et à tout envoyer balader.
Quitte à
rompre
et à tout envoyer balader, bien sûr, mais en disant qu'il faut privilégier son, entre guillemets, développement personnel, alors qu'avant la notion de famille était le vrai projet, c'est-à-dire que l'abnégation fait pas partie aujourd'hui des projets individuels. Et quand on a des enfants et qu'on a quand même un certain nombre de devoirs vis-à-vis de nos propres enfants, je pense que ça mérite quand même une certaine réflexion entre développement personnel et intérêt familial.
François de Singly.
On peut être fidèle réciproquement et continuer à se développer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une tension. Mais c'est pas forcément des logiques, disons, de type externe. Il faut aussi travailler sur comment conjuguer la fidélité à soi-même et la fidélité conjugale. Quand les jeunes qui sont là, mais 97% et tout, ils sont pas encore dans le problème du souci des familles et tout. Pour eux, c'est j'ai idéalement quelqu'un qui va m'aider à m'accompagner sur mon chemin.
Stéphanie Thor.
Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites. Effectivement, il y a quelque chose toujours dans la rencontre amoureuse. On attend que l'autre vienne combler un manque à être, quelque chose. Voilà. Et alors on attend que l'autre nous l'amène. Et puis ça, un jour, ça suffit pas parce qu'on est pris dans la routine, parce qu'on sait aussi que entretenir le désir dans la proximité, hein, c'est pas toujours facile. Alors, on retrouve cette espèce de manque, de trou, qu'on essaye d'aller compenser ailleurs. Je vois aussi pas mal de gens qui font exploser les structures dès qu'il y a le moindre coup de canif. Alors oui, au nom de soi, au nom de se respecter, mais est-ce que finalement faire famille et puis la conjugalité, est-ce qu'elle n'amène pas aussi un nécessaire sacrifice?
Jeudi, les écrans bleus nous empêchent-ils de trouver le sommeil? La réponse de Patrick Lemoine.
Je pense que cette question des écrans qui donnent de la lumière bleue en particulier, qui est particulièrement toxique et pour la rétine, et pour la sécrétion de mélatonine, donc pour le réveil, est très importante. Et donc, déjà, il faut penser à la règle du 3-6-9-12. Hein. Pas de télé avant 3 ans, pas de tablette avant 6 ans, pas d'internet, d'email avant 9 ans, et pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Ça, à mon avis, c'est une règle. Et puis quand même, contrôle parental, hein, surtout par ces temps de radicalisation. Deuxièmement, le soir, donc, cette lumière bleue, les diodes bleues, les smartphones, les liseuses à rétroéclairage, les téléphones, tout ça, sont extrêmement toxiques. En plus, dormir avec un téléphone allumé, même en veille sous son oreiller, moi, ça m'inquiéterait un petit peu au cours des années, pour d'autres raisons.
Pour le cerveau en particulier,
exactement,
par exemple.
Notamment les gliomes. Ouais. Il y a quand même des études un petit peu inquiétantes là-dessus.
Donc là, 25% de sécrétion en moins de mélatonine avec l'usage des écrans?
Facilement, à mon avis, c'est très faible. C'est pire que ça. C'est pire que ça.
Donc là, il y a un vrai problème de santé publique aussi.
Oui, je pense qu'il y a aussi un problème d'autorité parentale. Je pense que les ados, un ado, tant qu'il est chez moi, ne doit pas se rendre malade. C'est toxique. Le pétard avant de se coucher, qui fait dormir, certes, c'est comme le cougnol, ça fait dormir aussi, ou comme les somnifères, ça fait dormir. Mais c'est assez tragique quand même de dormir, parce qu'on bousille les neurones pendant ce temps-là. Et toutes ces sources de lumière bleue, même la petite diode toute bête de la télévision allumée dans la chambre, sont désastreuses.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.